Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
On en croise souvent dans les rues de nos grandes villes et on en parle souvent également à cette antenne, les SDF, ces personnes sans domicile fixe. À la longue, difficile de ne pas se blinder, comme on dit, ou de ne pas crier intérieurement, car dans nos rues, ils sont devenus le symbole du scandale du mal ou de notre indifférence à ce dernier. Pourtant, comme un vent d'espoir, une association s'est créée en France, Lazare. Le pari proposait à des personnes sortant de la rue de vivre avec des jeunes professionnels et plus encore, de leur proposer leur amitié. Voilà cette émission Vivante Église ce matin. Donc, je reçois ce matin Étienne Villemain. Vous êtes fondateur donc, de cette association, l'association Lazare, et du pèlerinage Fratello. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Donc, je le dis tout de suite en correction pour ne vexer personne, parce que les introductions sont toujours évidemment, un peu brèves et caricaturales. Vous n'êtes pas évidemment la seule association qui œuvre auprès des personnes sans domicile fixe, mais en tout cas, c'est une jeune association qui n'est pas forcément très connue du grand public, et donc c'est l'occasion pour nous de mieux vous découvrir et de découvrir cette formule un peu nouvelle ou inédite. Alors, vous êtes un jeune père de famille, et il y a 10 ans, à l'époque vous n'étiez pas père de famille, vous avez été entraîné dans une aventure un petit peu folle. Peut-être pouvez-vous tout simplement commencer par nous expliquer comment tout a commencé.
Eh bien, c'est simple, c'était le 31 décembre 2005. Théoriquement, le 31 décembre, on fait la fête, et moi j'étais dans un couvent, et je faisais une retraite, et au cours de cette retraite, la sœur nous dit « Allez devant l'autel, prenez dans la corbeille un petit papier avec le nom d'un saint, ce n'est pas vous qui choisissez le saint, c'est le saint qui vous choisit. » Et moi, je me suis dit « qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et je me suis levé, et au moment où je me suis levé pour aller prendre ce bout de papier, j'ai une parole dans le cœur. « Si c'est Mère Teresa, tu te mets en colocation avec des personnes de la rue. » Et je prends le petit bout de papier, et c'était marqué « Mère Teresa ». Et en dessous, c'était marqué « Vous n'êtes pas appelé à réussir, mais à être fidèle ». Et en dessous encore, c'était marqué « Priez pour les familles ». Et d'un seul coup, alors que j'étais assez triste pour des histoires d'une peine de cœur, là, j'ai une grande paix et une grande joie dans le fond du cœur. Et je dis « Seigneur, je veux bien ». Je veux bien, et j'étais vraiment très 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 paisible. Et puis je rentre à Paris, j'appelle un de mes amis qui s'appelle Romain Alain Dupré, et qui s'occupe d'une association pour les personnes de la rue. Moi personnellement, j'y connaissais absolument.
Alors, c'est la question que je voulais vous poser.
Absolument.
Est-ce que
rien.
Vous connaissiez quelque chose? Vous étiez sensible en tout cas à cette réalité déjà?
Pas plus que ça. Oui, je veux dire les personnes pauvres, mais pas plus que les personnes par exemple qui sans doute nous écoutent en ce moment. C'est-à-dire que ça m'a pas préoccupé plus que ça auparavant. Et donc j'ai cette parole dans le cœur, je rentre à Paris, j'appelle Romain Alain Dupré, je lui dis voilà, je voudrais me mettre en colloque avec des gens de la rue, j'y connais absolument rien, est-ce que toi t'as un contact, un conseil? Et il me dit, appelle un certain Martin, moi c'est pas pour moi, mais appelle Martin. Et alors j'essaie d'appeler Martin, impossible à joindre. La journée avance, et puis je vais me promener sur les quais de Seine. J'habitais dans le Marais.
Donc le Marais, c'est un quartier de Paris.
Exactement, c'est tout à fait. Et je vais me promener, et là je vois tous les moines et les moniales qui rentrent. C'était la fraternité monastique de Jérusalem, et qui vont prier dans cette église magnifique. Et je les suis, je rentre avec eux. C'était le 1er janvier, jour de la fête de Marie, Mère de Dieu. Et je dis au Seigneur, voilà Seigneur, tu vois, je veux bien venir habiter avec des personnes de la rue, mais fais pas au-delà de mes moyens. Tu vois, je viens d'arriver dans cette ville, je commence à prendre mes repères, je suis à une bonne distance de mon travail. Ce quartier, ça me permet tous les matins de venir prier et adorer le Saint-Sacrement ici, t'adorer toi, Seigneur. Et donc, comme tu veux, Seigneur. Si tu veux que j'aille en grande banlieue, j'irai en grande banlieue. Mais voilà, c'est vrai que ce quartier, ça me met plus dans la paix. Et puis je sors, j'essaie d'appeler Martin. Une nouvelle fois, j'avais peut-être essayé de l'appeler 4-5 fois, peut-être 6 fois, peut-être 10 fois, je sais pas. Et là, je l'appelle et je l'ai et on discute. Et en 3 minutes...
Vous le connaissiez pas en fait, hein ?
Absolument pas. Je connaissais pas Martin. Et en 3 minutes, on a exactement les mêmes intuitions. On se dit 3 choses. On se dit, on veut vivre une forme de pauvreté. Parce que si on a les mains trop pleines, on pourra pas être avec ces personnes. On veut vraiment accueillir Jésus, donc prier ensemble. Et puis, on veut être une personne qui était à la rue pour un jeune qui était pas à la rue. Et alors, je dis à Martin, ça marche. Je te connais pas, mais je veux bien me mettre en colloque avec toi. En revanche, j'ai une condition qui est une condition sine qua non, c'est-à-dire que si cette condition n'est pas remplie, je ne viendrai pas. Je voudrais qu'on ait l'adoration pas loin de chez nous, parce que si on a l'adoration, eh bien on avancera, mais si on n'a pas l'adoration, on va se péter la figure.
Alors je précise juste, hein, parce qu'il y a certains auditeurs qui n'ont pas la foi, donc l'adoration c'est donc pour les catholiques de croire que Jésus est présent dans le Saint-Sacrement, donc l'hostie consacrée à la messe, et donc ça fait objet de vénération et d'adoration. Donc c'est en tout cas une dévotion à laquelle vous étiez habitué.
Donc en fait, moi j'allais devant cette hostie et je regardais ce qui je considère être le bon Dieu, et voilà, et puis on parlait, on s'avisait. Toujours est-il que et Martin me dit, bah, écoute, j'ai trouvé un lieu. Je lui dis, ah bon, c'est où? Et il me dit, c'est à côté de Saint-Gervais. Et je venais à peine de sortir de cette église, quoi. Et je rejoignais chez moi. Et donc, vous voyez, par ce petit coup de fil, j'avais une confirmation exactement à la prière que je venais de faire. Et avec mes affaires, j'ai fait moins de 50 mètres de chez moi pour arriver dans cet appartement, pour commencer à vivre cette expérience. Et c'est là le point de départ de ce qui, moi, m'a profondément marqué.
Alors, c'était en 2001, c'est ça?
C'était en 2006. C'était le 3 janvier 2006.
Pardon, ça. 3 janvier 2006. Donc, il y a une association qui est née après ça, qui s'appelle l'APA, Association pour l'amitié, c'est ça?
En fait, pas exactement. Au début, on a commencé à vivre avec Karim, Rabat et Yves.
Donc, au début, ça n'avait pas de nom. C'était,
ça n'avait aucun nom. On était trois jeunes qui se mettaient en coloc avec trois gars en galère. Il y avait Karim, Rabat et Yves. Karim, son papa, avait étranglé sa petite sœur devant lui. Un choc énorme. Comme il est sidéré par ce choc, il n'a que 200 mots de vocabulaire, il ne peut pas s'exprimer, donc il a pourtant plein de bouillonnements, de tensions internes, et alors il boit, il fume du shit, et puis de temps en temps il pète un câble et il casse tout. Un jour il casse toutes les assiettes, toutes les grandes assiettes, et alors on s'est dit, si on veut vivre la pauvreté, c'est maintenant. On va pas racheter des assiettes, et on a mangé pendant 6 mois dans des assiettes à l'essert. Et puis un jour je suis tombé en sortant du travail sur une pile d'assiettes qui était encore sale, il restait de l'œuf, je me souviens, et on les a prises. Et ça a été nos assiettes pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années même. Et donc voilà.
Donc vous mettez en coloc avec combien de personnes au début?
Avec trois personnes qui étaient à la rue, et on était trois jeunes actifs. Il y avait Martin, Valérie qui était un garçon, et moi-même. Et puis trois personnes qui étaient à la rue, donc Karim.
Vous pouvez donner leur nom et leur...
Karim, Rabat et Yves. Rabat, lui, il avait une grosse difficulté d'alcool, et il était quand il est arrivé à la maison, on lui a dit, tu peux venir, mais il faut pas boire chez nous, c'est très important. Et pendant 15 jours, Rabat ne boit pas, il fait des efforts surhumains. Et un jour, il arrive en pleurant, il dit, Étienne, je voulais pas boire, puis j'ai bu. Et alors, je le prends dans mes bras, et il a ses larmes qui coulent dans mon cou. Il y a sa morve qui coule dans mon cou, sa bave qui coule dans mon cou. Et je le serre bien dans mes bras, et je me dis, pour rien au monde, je voudrais laisser ma place à quelqu'un d'autre. Parce que celui qui est dans mes bras, c'est vraiment Jésus. Ce Jésus qui dit, ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Celui qui accueille ce petit en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Et Rabat vraiment a été magnifique, il m'a énormément ouvert le cœur, c'est quelqu'un qui a énormément souffert, mais qui est d'une bonté incroyable.
Vous pouvez raconter la prière que vous avez eue avec lui après? Vous avez raconté ça lors d'un de vos témoignages.
Oui, et alors après, je lui ai dit, tu sais Rabat, on a tous le droit de se casser la gueule. On n'a pas le droit de rester dans la boue, alors courage. Et il m'a dit, Étienne, il faut que je comprie. Alors je lui ai dit, d'accord. On est allé dans la chapelle, il a eu des grosses larmes qui ont coulé le long de son visage, et il disait, Seigneur, je t'en supplie, délivre-moi de cette merde, délivre-moi de l'alcool, je te prie pour ma femme qui est au pays, je te prie pour les enfants. Et moi j'étais derrière, un peu en retrait, et je dois dire que je pleurais, parce que Rabat m'a appris à prier. Les pauvres sont nos maîtres, c'est ce que nous dit Saint-Vincent de Paul, et ben c'est vrai, Rabat m'a appris à prier. Donc on a commencé à vivre avec Karim, Rabat et Yves.
Alors racontez un peu Yves, parce que vous racontez souvent que Yves, au début, il se tenait extrêmement courbé, et petit à petit, il s'est redressé.
C'est ça. Yves, quand il est rentré, il était dans une grande dépression. Quand il est rentré, effectivement, il était tout courbé. Et puis surtout, j'ai dit, oh là là, regardez les gars, sous vos chaussures, il y a quelqu'un qui a dû marcher dans la merde. Et là, je réalise, et pardon de le dire, mais aussi crûment, mais c'est la réalité. Je réalise qu'il s'est chié dessus, et ça fait 3 semaines. Et il est dans une telle dépression qu'il est incapable de se laver. Alors je lui dis, viens.
Et il était chez vous depuis 3 semaines pourtant.
Non. Il était dehors. Dehors, et après il m'a expliqué que ça faisait 3 semaines. Et donc je lui ai donné un pantalon, un caleçon, et puis je lui ai dit, voilà, tu peux aller te laver. Il est allé se laver. Et puis après, je me suis mis au bord de la baignoire, j'ai retourné son pantalon, j'ai commencé à le laver. Et il s'est approché de moi et il m'a dit, oh, non, surtout fais pas ça. Et je lui dis, tu sais, Yves, le prix que tu vaux, c'est pas le nombre d'amis que tu as, c'est pas le salaire que tu touches, c'est pas le nombre de copains que tu peux avoir. Le prix que tu vaux, c'est le prix que quelqu'un a payé pour toi. Et ce quelqu'un, il a payé le prix de son fils qui est mort sur la croix pour toi. T'es quelqu'un qui a un prix infini aux yeux de Dieu, et tu dois prendre soin de toi parce que t'es quelqu'un de beau, d'admirable, et donc tu dois prendre soin de toi. Et puis, voilà, on a appris à vivre ensemble. Alors, il était un peu surpris de cette remarque, mais on a appris à vivre ensemble. Et ça a été vraiment beaucoup de joie. Un jour, je lui dis, tiens, on va faire un gâteau. Oh non, je ne sais pas faire. Si, si, tiens, on va faire plutôt une quiche. Alors voilà, je te montre. Et puis, je lui montre, on met de la pâte. Je prends des œufs, je casse les œufs. Et puis, petit à petit, je fais toute la quiche. Et puis, je me dis, mince, c'est moi qui ai fait la quiche. Donc, le jour suivant, je lui donne les ingrédients, je prends les ingrédients et on fait chacun de notre côté une quiche. Et puis le jour suivant encore, c'est lui qui fait et il me dit « Est-ce que c'est comme ça ?»« Mais oui, c'est comme ça. » Et puis, en fait, il y a une semaine, on n'a pas arrêté de manger des quiches. Et quelques temps plus tard, ce bon Yves, je lui dis, il y a une copine qui vient dîner à l'appart, si tu veux, que tu le saches, quoi. Et ce soir-là, Yves a vidé le déo sur lui, le gel dans les cheveux, et il a préparé une quiche. Et c'est vraiment un succès parce que ce gars n'arrive pas à se lever, à se laver, à prendre soin de lui, mais pour les autres, il fait une quiche. Et c'était vraiment une petite victoire. Et alors, on se met autour de la table et cette fille, Anne-Sophie, se tourne vers moi et dit elle est bonne cette quiche. Et je lui dis elle pensait que j'allais lui dire c'est pas très compliqué ou je ne sais quoi. Et là, il y a Yves qui est tout voûté et qui se redresse et qui dit c'est moi qui l'ai faite. Et il éclate de rire. Et c'était vraiment une petite victoire pour ce gars. Donc vous voyez, pendant 2 ans, on vit une vie absolument ordinaire, classique et en même temps un peu extraordinaire. Je me souviens d'une fois où je me retrouve avec un revolver. J'ouvre la porte et je me retrouve avec un revolver sous le nez. Et Karim ouvre la porte et dit « Ah, elle est en plastique !» Alors on comprend que le revolver est en plastique et on rigole beaucoup, même si j'ai eu un peu peur avant. Et puis, il met un clou dans ce revolver et il tire contre un mur le jour suivant. Et le jour suivant, évidemment, il est bourré. Et il me dit « Le clou, c'est pour toi, dans ta tête. » Et il me montre avec son doigt au-dessus des deux yeux. Et alors, j'ai pris le clou et je lui ai donné. Et je lui ai dit « Je pense qu'il faut que tu ailles te reposer. » Et j'ai découvert au travers de ça que la confiance, c'est le rempart de la violence. Donc voilà, pendant 2 ans, une vie ordinaire et qui nous a rendus en même temps très heureux.
Alors on reviendra un peu sur les piliers de cette association que vous avez créée. Donc toujours est-il qu'après cette première expérience, vous avez eu assez rapidement un bon accueil de l'Église. Ça a contribué en partie au développement de cette association, l'Église catholique. Donc est née, je ne sais pas si c'est tout à fait comme ça que ça s'est passé, vous allez nous dire, l'APA, donc cette association pour l'amitié. Et puis après, cette association Lazare. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ces deux, trois étapes?
En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été très heureux. On s'est dit, si on partage le bonheur, ça se multiplie. Si on le garde pour nous, eh ben on le perd. Donc on s'est dit, comment on peut faire pour que ça se développe? Et on a eu effectivement un énorme soutien de la part de l'Église. On a ouvert un appart, puis un autre appart, etc., ainsi de suite. On est passé de 6 à 24, de 24 à 50, de 50 à 60 à Paris, exactement. Et puis à un moment, moi j'ai dit à mon conseil d'administration, je sens le désir d'aller dans toute la France, parce que la question de la pauvreté, c'est pas que à Paris, c'est en France, c'est dans le monde quand même. Et mon conseil d'administration m'a dit, c'est vraiment, on sent aussi que c'est ton charisme. Alors, vas-y. Et au même moment, j'ai eu un don d'une personne de façon assez providentielle et qui a permis d'ouvrir une première maison à Lyon. Et puis, on a ouvert ensuite une maison à Nantes, à Lille, à Angers, à Toulouse, dans différentes villes. Aujourd'hui, on est présent dans 6 villes en France. On est en train d'ouvrir, on vient tout juste d'ouvrir en Espagne. En Belgique aussi. Aujourd'hui, on a un programme pour ouvrir 4 nouvelles maisons en France, Grenoble, Rennes, Bordeaux et Strasbourg. Et puis surtout, au-delà de ça...
Ça fait combien de personnes tout ça?
Alors aujourd'hui il y a à peu près 300, il y a à peu près 300 personnes qui vivent dans les maisons. Donc on pourrait dire à peu près, grosso modo, 150 personnes qui sont à la rue et 150 personnes qui étaient à la rue. Mais au-delà de ça, ce qui est extraordinaire, c'est de s'apercevoir que Et c'est des petits signes d'espérance. Vous savez, on est dans un monde qui est parfois un peu désespéré. Il y a 140 000 personnes qui sont à la rue. Il y a une politique qui, parfois, dans notre pays, peut nous plomber. Des lois sociétales qui sont dramatiques. Des situations dramatiques aussi dans notre entourage proche. Des amis qui divorcent, des amis qui sont très malades, etc. Et c'est dur à vivre et à porter. Eh bien, ces petites maisons sont comme des petites oasis. Et dans ces petites maisons, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on invite des gens le dimanche autour d'un repas et on développe tout un tas de choses, d'amitié. On développe par exemple des séjours, des week-ends. Puis il y a des personnes de la rue qui nous disent, bah, moi j'aimerais bien être préparé au baptême. Alors on a créé un parcours de préparation au baptême pour les personnes de la rue et ainsi de suite.
Alors vous allez nous raconter la suite. On va faire une première pause musicale. Étienne Villemain, l'association Lazare. Voilà, merci beaucoup d'être parmi nous ce matin. On fait une première pause et on vous retrouve tout de suite après.
Présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà cette émission Vivante Église ce matin, Lazare, quand l'espoir se lève donc sur cette association nouvelle maintenant ça fait quelques années, et originale, donc des jeunes professionnels qui vivent avec des personnes qui sortent de la rue, association qui se développe un petit peu partout en France et même à l'étranger si j'ai bien compris. Et nous sommes avec Étienne Villemain qui est fondateur de cette association et aussi du pèlerinage Fratello sur lequel on reviendra un peu plus tard. Alors Étienne, vous avez raconté cette histoire un peu folle, cette genèse en fait très providentielle, signe souvent quand même de toutes les grandes aventures. Est-ce que vous pouvez, avant qu'on parle des quelques piliers qui font la vie de ces maisons, nous dire un petit peu tout simplement comment fonctionnent ces maisons ou ces appartements?
Oui, alors en fait c'est simple. Ce sont des appartements à taille humaine, entre 6 et 10 personnes. En général, c'est plutôt 8 personnes. il y a autant de personnes qui étaient à la rue que de jeunes actifs. Donc 4 et 4, c'est souvent deux appartements d'hommes, deux appartements de femmes, une famille qui vivent sur un même lieu.
Pourquoi c'est important qu'il y ait une famille qui habite dans le coin ?
Alors la famille, c'est, d'abord c'est l'image, c'est l'icône un peu de quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire c'est la communion entre deux êtres. Et vous savez, les trois quarts des gens qui sont à la rue n'ont plus de contact avec l'un des deux parents depuis l'âge de 16 ans. Ce que les personnes de la rue ont... pourquoi est-ce que les personnes sont à la rue ? C'est parce qu'elles ont souffert de séparation, de rupture familiale. Et là, leur montrer une famille bienveillante qui s'aime, c'est aussi un démarrage. C'est les aider à vivre quelque chose de plus fort. Et puis, il y a aussi une deuxième chose, c'est que les personnes qui sont à la rue, elles sont accueillies par des assistantes sociales, des travailleurs sociaux. Elles sont que dans un contexte avec d'autres personnes. Vous voyez, dans notre société, on parque les gens. Hein. Donc, les vieux sont avec les vieux, les handicapés avec les handicapés, les SDF avec les SDF, les enfants avec les enfants. Et il n'y a plus de cloison. Et en fait, le drame de ça, c'est qu'on se déshumanise, on s'individualise. Là, nous, notre idée, c'est le fait qu'il y ait une famille, ça veut dire, bah, écoute, Jean-Claude, tu ne peux pas rentrer bourré le soir parce qu'il y a des enfants et que, ou pendant la journée, et que par sécurité pour eux, par respect pour eux, tu dois être non alcoolisé, par exemple. Alors, c'est un peu facile de dire ça, parce que quand quelqu'un est malade de l'alcool, c'est un petit peu plus complexe que ça. Mais au-delà de ça, c'est aussi pour dire, mais, par exemple, moi, aujourd'hui, Étienne, j'habite avec ma femme et mes enfants dans une maison où on accueille des personnes qui étaient à la rue, c'est aussi leur montrer toute la confiance qu'on a en eux. Et leur dire, t'es pas un pestiféré, et le fait qu'il y ait mes enfants ici, eh bien, ça prouve que c'est une maison de paix. En fait, pour que ces maisons vivent, il faut que ce soit des lieux paisibles où il fait bon vivre. Et c'est ce qu'on essaie de mettre en place.
Alors, sur le fonctionnement, donc la formule, on a compris. Donc, c'est des jeunes professionnels, voilà, qui vivent avec des gens qui sortent de la rue. Mais alors après, comment tourne, tout simplement ? C'est une vie de famille, justement ?
C'est comme une vie de famille. C'est-à-dire que le matin, ceux qui avaient un appartement se retrouvent tous les matins pour un temps de prière. Ils disent les laudes. Les personnes qui étaient à la rue sont les bienvenues, mais elles ne sont absolument pas obligées. Parce qu'on ne va pas dire à quelqu'un, t'es à la rue, si tu viens, tu deviens chrétien, puis on t'accueille. Non, ce n'est pas ça. On laisse infiniment les gens libres. S'il y a des gens qui sont musulmans. J'étais à la maison de Nantes hier. Il y a une femme qui est voilée. Et ben, génial, quoi. Qu'on soit ouvert pour accueillir toutes les personnes. Mais c'est vrai que nous, ceux qui avaient un appartement, on se retrouve pour prier ensemble. Alors, comment ça se passe ? Eh ben, souvent, un soir dans la semaine, il y a un temps de maisonnée, un temps où on partage sur les joies, les peines, le quotidien de la vie. J'aimerais bien qu'on achète un peu plus de viande, ou est-ce que vous pouvez faire attention pour que ce soit bien propre les toilettes, ou voyez, et puis aussi des partages plus profonds. Bah, j'ai quelque chose de difficile en ce moment à vivre, ça se passe pas bien avec ma petite amie, ou je ne sais quoi. Vous voyez, donc ça, c'est cette soirée de maisonnée. Après, il y a une soirée le vendredi soir qui est souvent une soirée où on ouvre assez largement et on invite toutes les personnes qui veulent venir. Le dimanche, c'est plutôt une soirée que pour la maison. Et puis après, dans chaque maison, il y a des rythmes un petit peu différents. Mais c'est très ordinaire, quoi.
Alors, vous avez fait des enquêtes de satisfaction. En fait, vous sondez régulièrement, si je puis dire, ces maisons, et puis vous interrogez les personnes qui y vivent, donc les personnes qui étaient à la rue et celles qui étaient dans des appartements, comme vous faites ce distinguo. Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres qui représentent en fait la beauté et la fécondité de cette aventure ?
Alors, d'abord, il ne faut pas tout résumer aux chiffres, parce que derrière la vie de ces personnes, il y a des gens qui s'en sortent, puis des gens qui s'en sortent, puis qui se recassent la figure, etc. Et c'est jamais gagné, c'est toujours difficile, il faut rester humble face à ça, et Lazare n'est qu'une petite solution parmi une palette d'immenses belles choses qu'on peut voir. Mais on fait faire effectivement régulièrement une enquête par des consultants extérieurs. Il y a eu plusieurs chiffres qui sont intéressants. Par exemple, 95% de nos résidents disent qu'ils sont heureux ou très heureux de vivre à Lazare. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que il faut comprendre, c'est des gens qui sont parfois dans la dépression, dans la souffrance, etc. Et donc, ça, c'est intéressant. Et il faut qu'on travaille pour que les 5% qui sont pas heureuses puissent trouver la paix, la joie, etc. Deuxième chiffre intéressant, c'est de montrer que 40% des gens retrouvent un travail dans les 2 ans. Ça veut dire que, en fait, quand on donne aux gens un logement normal, des rencontres normales, une vie classique, et bien peu à peu, ces gens ne sont pas plus bêtes que vous et moi, et ils sont capables de retrouver des relations, une capacité de travail, etc. Donc voilà, ça c'est beau. Et puis 85% des gens dans les deux ans retrouvent un logement. Et donc, ça,
85% retrouvent un logement,
ouais,
cette fois, pas un travail.
Voilà, 40%. Un travail
sous les deux ans,
dans
85%
les ans. Exactement.
Sous deux ans aussi.
Voilà. Alors, il y a une chose qui est importante à dire, c'est que tout ça ne serait absolument pas possible s'il n'y a pas des jeunes qui s'engagent. Et là, à la fois, je passe un appel et je le dis avec une admiration infinie. Je vois tellement de jeunes qui viennent, qui se donnent et qui vivent une expérience qui est fondatrice dans leur vie, qui va les faire grandir, qui va faire d'eux des vrais hommes ou des vraies femmes de demain. Ça permet quoi ? Ça permet de se structurer, d'apprendre la relation. Par exemple, moi, je me suis marié il y a 4 ans et avant, pendant plusieurs années, j'ai habité dans des colocations avec des personnes de la rue. Eh bien, je dois avouer que ces années de préparation ont été extrêmement importantes pour moi. Elles m'ont aidé à grandir, à comprendre l'autre, à écouter, à mûrir tout simplement dans la relation. Et c'est essentiel dans notre société, cette relation. Et puis aussi d'accueillir le plus pauvre, le plus fragile. Si on n'accueille pas le plus pauvre et le plus fragile chez nous, dans notre maison, comment on peut accueillir nos fragilités ? On est dans une société où on est à la course de la performance, où il faut réussir toujours, être le plus fort, le meilleur, gagner plus de pognon, etc. Et si on accueillait les pauvres ? Et si on accueillait les pauvres au cœur de notre église, au cœur de notre famille, au cœur de... Vous voyez, par exemple, autrefois, on accueillait le pauvre comme le Christ. On disait, au Moyen-Âge, le pauvre, c'est vraiment Jésus, parce que ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Celui qui accueille ce petit en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Alors on accueillait le pauvre comme Jésus. Et puis, peu à peu, ça s'est organisé, structuré. Il y a eu des sœurs qui sont occupées des aveugles, des sœurs qui sont occupées des orphelins, des frères qui sont occupés des écoles chrétiennes, etc. Et puis, petit à petit, ça s'est professionnalisé, ça s'est institutionnalisé, peu à peu c'est rentré dans le champ des pouvoirs publics, de la sphère publique, et puis qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, on est passé avec des numéros, avec des usagers. Et il n'y a même plus, vous voyez, c'est des usagers et des services, des droits, etc. Et on a perdu une chose
essentielle. Même s'il y a parfois dans ces services ou dans ces associations... pas mal d'humanité.
Ça peut être magnifique, mais on a perdu quand même une chose. C'est le lien, pour beaucoup, hein, du cœur. C'est-à-dire que, par exemple, on forme souvent les travailleurs sociaux, pas tous, et Dieu merci, il y en a qui sont extraordinaires, mais à avoir une distance avec ces personnes. Et en fait, on le comprend, ça peut être nécessaire. Mais ce qui est nécessaire aussi, c'est que les personnes qui sont dans la rue, elles ont tout autant besoin d'un toit que de relations humaines, d'amitié, d'amour. Et en fait, en vivant à Lazare, elles sont reconnues. Par exemple, il y a quelques temps, il y a un gars qui s'appelle René, qui est un jeune, qui est venu chez nous. Deux frères en prison, la mère qui a aussi fait de la prison, un frère toxicomane. Lui, il est parti à la rue parce qu'il s'est dit, si je continue, je vais me retrouver dans la même situation. Et il vient habiter chez nous. Et au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines même, il part un week-end sans prévenir. Et je suis allé le voir en lui disant, bah, il faut que tu préviennes, parce que nous, on s'est inquiétés. Et c'est important, c'est un signe d'amour de dire à quelqu'un, tu vois, t'étais pas là et j'étais inquiet. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et petit à petit, ce gars est en train de remonter la pente et il a du travail et il va avancer. C'est un super, super gars, René.
Alors, après ces explications, il y a deux, trois choses sur lesquelles je voulais particulièrement insister. Vous avez dit au début, en fait, comment est née cette aventure. Et vous avez précisé aussi, donc, que vous avez essayé de mettre dès le début la prière au centre. Alors, je m'étais noté « Dieu premier servi ». Est-ce que c'est de fait le cas à Lazare ? Et si oui, pourquoi c'est important pour cette association ?
En fait, ce qui me semble important, c'est de dire que moi, je suis un pauvre type. Jésus est allé chercher des pauvres types. Il va chercher l'estropié, le malade, etc. Et il va chercher Pierre qui va le trahir pour bâtir son église. Et si on ne reconnaît pas notre incapacité, on ne peut pas avancer. Eh bien, je trouve que le fondement premier de Lazare, c'est l'adoration. de cette adoration, je me mets devant Jésus et je dis: Jésus, je suis incapable d'aimer, viens aimer en moi. Et en faisant ça, peu à peu, de l'adoration naît un cœur de compassion, et de la compassion naît l'évangélisation, ou en tout cas le témoignage. Ce que je peux vous dire comme expérience, c'est que c'est devant le Saint-Sacrement que j'ai eu des idées les plus folles, des projets les plus fous, et qui se sont réalisés. Et ce que je vois aussi, c'est que nous sommes des indignes serviteurs. On fait, vous savez, les gens disent « Waouh, c'est génial !» et tout. On fait que ce qu'on a à faire. Mais l'Église, qui est experte en humanité, par la confiance qu'elle nous fait, par le sacrement du baptême, par le fait d'avoir la présence de Dieu, de pouvoir prier et de se nourrir de ça, l'Église nous confère cette expertise en humanité et nous aide à accueillir cette doctrine sociale qui nous aide à aimer nos frères et à les mettre dans des conditions qui les font grandir, pas des conditions qui les asservissent et qui en font des assistés, mais des circonstances, enfin un cadre qui les aide à grandir et à être eux-mêmes, à s'élever eux-mêmes.
Est-ce qu'il y a des personnes, anciennes personnes de la rue qui, du coup, à la faveur de ces colocations, font un chemin aussi vers Dieu ? Qu'est-ce que vous pouvez nous partager de ça ? Vous dites que certains demandent le baptême après, et puis dans l'un de vos témoignages, vous citez, entre autres, un certain Karim, dont vous avez parlé au début de cette émission, qui vous a dit un jour « je veux de l'eau dans la tête ». Est-ce que vous pouvez nous raconter, enfin, c'est pas du tout pour me moquer de lui, hein, mais vous pouvez raconter, est-ce que c'est pas le but de l'association, mais est-ce qu'il y en a certains qui font du chemin à la faveur de,
oui,
cette aventure?
Oui, oui.
Est-ce que vous pouvez nous donner
des
exemples?
Il y a beaucoup de gens, et c'est un peu le mystère, et c'est le côté sacré de chaque personne, mais on voit des choses magnifiques. Effectivement, un jour, Karim a été touché, il m'a dit « je voudrais de l'eau dans la tête », alors je comprenais pas ce que ça voulait dire. Et puis j'ai compris qu'en fait, il voulait le baptême. Et c'est vrai qu'on a accompagné beaucoup de personnes. Je voudrais aussi vous parler de Bruno. Bruno, c'est un homme à qui on a proposé ce parcours, qui s'appelle le parcours Jean-Baptiste, qui est un parcours de préparation baptême pour les personnes qui sont à la rue. Et on a vécu ensemble ce parcours de préparation baptême. Et puis il a été très touché. Et après, il est venu habiter dans nos maisons. Et ensuite, il est venu à différents week-ends et séjours, et on est parti ensemble à Rome.
Et à l'occasion du pèlerinage Fratello,
exactement,
on en parlera après.
À l'occasion de, mais
à la fin de l'émission.
J'en touche
pas
un mot.
Problème, bien sûr.
Et au cours de ce pèlerinage, il a servi la messe du pape, il a serré la main du pape, et ça a été magnifique. Et puis en rentrant dans le train, il était pris d'une grande froid, d'un immense froid, alors qu'il faisait très chaud. Donc on lui a mis des couvertures dessus, il grelottait, il claquait des dents, etc. Et tout le monde avait tout à fait chaud, on était en t-shirt, etc. Et en fait, on s'est aperçu que, tout simplement, il avait un problème de santé, et il a eu un cancer du cerveau qui était assez foudroyant. Et quelques semaines plus tard, je vais le voir à l'hôpital, et je lui tenais la main, et cet homme est mort pendant que je lui tenais la main. Et en fait, il était, c'était bouleversant, parce que cet homme avait été plus ou moins abandonné par sa famille, et comme il avait vu le pape, et il était devenu une star dans sa famille, et la famille était autour de lui, et il est mort, et autour de lui, il y avait des gens de nos maisons qui étaient en train de prier avec lui. Il y avait une photo de Mère Teresa sur son cœur. Il était avec un t-shirt Parcours Espérance, parce qu'on a lancé un parcours qui s'appelle le Parcours Espérance, où on emmène 200 personnes à Paray-le-Monial chaque année pour une retraite. Et ce gars a profondément changé. Il a profondément changé de vie. Il a profondément changé ma vie.
Alors, il y avait eu un ou deux points. Alors on n'a peut-être pas le temps de parler de tout, mais c'est pas grave. Vous avez dit tout à l'heure l'importance qu'il y avait à faire confiance. Il y a même une formule pour ça.
La confiance, c'est le rempart de la violence.
Voilà, exactement. Mais en même temps, vous avez une autre formule, parce que vous êtes coutumier comme ça de formule un peu choc à propos de l'exigence. L'exigence sans amour tue, et l'amour sans exigence dévalue. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous tenez les deux ? Parce qu'on peut imaginer que ces colocations-là, c'est pas non plus le monde des bisounours. C'est-à-dire qu'il y a aussi une exigence qui est posée en partie pour ces personnes. Comment vous articulez les deux ?
Effectivement, c'est vrai que l'amour sans exigence mon petit chéri, tu fais tout ce que tu veux, tu as tous les droits, et bien au bout d'un moment, ça fait des enfants qui ont, l'amour n'a plus de valeur, quoi. Et puis, l'amour, enfin, l'exigence sans amour tu dois faire ceci, etc. Et au bout d'un moment, la personne ne supporte plus ça. En fait, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire que si on veut permettre à ces gens d'avancer, il faut être. Il faut poser une règle. Et dans la doctrine sociale de l'Église, on dit une chose très intéressante. On dit que chacun est acteur de sa vie et que on est capable du meilleur comme du pire. Et que les conséquences de nos actes, enfin nos actes ont une conséquence. Si un colocataire ne veut pas payer dans sa colocation, alors qu'il a la capacité de payer, eh bien, il refuse de respecter la règle. Et il met en difficulté toute la communauté parce qu'on vit avec un équilibre financier qui est assez fragile. Et donc, il met en difficulté tout le monde. Et donc, dire à une personne, ben voilà, tu veux pas respecter la règle de payer ou tu veux pas respecter, par exemple, la règle de venir à la soirée de maisonner, eh bien, c'est ta responsabilité, mais c'est toi qui décides d'arrêter dans la colocation. Et la personne doit partir. Et c'est très important parce que c'est montrer à la personne ce que tu fais a des conséquences et on respecte ton choix et ta liberté. Et trop souvent, je trouve, dans certaines institutions, on met la personne à la porte et puis elle revient quelques jours après et en fait, elle recommencera. Et en fait, quelles que soient ses actions, ça n'a aucune espèce d'importance. Alors que là, ben voilà, vous voyez, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui s'en sortent. C'est pas à cause de nous, c'est grâce à eux, parce qu'ils se sont donné les moyens. On a mis un cadre, c'est vrai, mais ils se sont donné les moyens et c'est leur succès.
Voilà, Étienne Villemain, donc fondateur de l'association Lazare. On va faire une deuxième pause et puis après vous allez nous parler de ce pèlerinage Fratello, donc pèlerinage qui a eu lieu le week-end du... Rappelez-moi les dates.
C'était au mois de novembre.
Au mois de novembre, voilà, juste avant la clôture donc, du Jubilé de la Miséricorde, où, à votre initiative, mais avec bien d'autres associations, plus de 4000 personnes sont allées à Rome pour suivre une retraite avec le pape François, magnifique retraite dont vous allez nous parler juste après cette deuxième pause musicale.
Oh!
Emmanuel Pella.
Voilà cette émission Vivante Église ce matin avec Étienne Villemain, fondateur de l'association Lazare et donc du pèlerinage Fratello dont on va parler dans quelques instants. Si vous nous prenez en cours de route, je vous rappelle qu'Étienne Villemain donc a fondé, avec d'autres, hein, au fur et à mesure en tout cas des années, donc une première association qui s'appelle LAPA et donc aujourd'hui Lazare. Ce sont des colocations donc entre des jeunes professionnels et des gens qui sortent de la rue. Et il y a aujourd'hui combien de maisons déjà, vous avez dit Étienne ?
Aujourd'hui en France pour Lazare, il y a un peu plus de 6 maisons et il y a plusieurs maisons qui s'ouvrent en Europe. Il y a voilà. 2 maisons en Europe actuellement.
Donc magnifique association qu'il faut faire connaître pour évidemment les aider. Et on donnera toutes les informations pratiques à la fin de cette émission puisque vous cherchez des bénévoles, des jeunes, mais aussi des sous. Et ça va sans dire. On profitera pour vous faire un petit coup de pub évidemment. Il y a donc une autre initiative que vous avez eue qui est donc ce pèlerinage Fratello. Alors j'en ai rapidement parlé avant la pause musicale. Je vais dire redire en deux mots ce que c'est. Puis évidemment vous allez compléter. Donc en novembre dernier, juste avant la clôture du fameux jubilé de la Miséricorde, le pape François vous a invité d'une certaine manière et a invité les pauvres, je ne sais pas si le terme est tout à fait le bon, vous allez me corriger, à venir à Rome pour cette clôture du jubilé pour un temps de retraite et de rencontre avec lui. Ça s'appelait donc Fratello. Racontez-nous.
Eh bien, écoutez, c'est simple. En 2014, on a organisé une retraite. Moi, je me suis dit, c'est terrible. Les pauvres sont à la porte de nos églises. Ils ne doivent pas être à la porte de nos églises, mais ils doivent être au cœur de l'église. Et comment faire? C'est où le cœur de l'église? Eh bien, on va les emmener à Rome. Et j'ai proposé à différentes personnes d'emmener 200 personnes à Rome. Et on m'a dit, t'es complètement cinglé, déjà on emmène 30 personnes de la rue, déjà c'est un gros challenge, etc. Et on a fait quand même un train, on a emmené dans... On a rempli quelques wagons et on est parti à 200 à Rome pour 3-4 jours qui ont été absolument extraordinaires. Et lors de cette première retraite en 2014, on voit le pape qui descend de sa papa mobile et qui descend et qui vient vers moi et puis vers notre petit groupe. Et quand il est arrivé en face de moi, je lui ai dit « Très sympa, il faut faire les journées mondiales des pauvres ». Et alors il a souri. Et puis il est allé bénir à côté de moi un gars qui s'appelle Christian. Ça a été assez extraordinaire pour lui et pour nous. Et puis voilà. Et puis je suis rentré à Paris, j'ai rencontré différentes personnes. J'ai dit on va essayer de réfléchir à cette idée de journée mondiale. Puis en fait on s'est dit on va déjà faire des journées européennes parce que avec des histoires de Schengen ça va être compliqué. Et on a commencé à organiser ça. Et on avait la volonté d'emmener 6000 personnes de la rue. En réalité on en a emmené 3500, je vous corrige parce qu'on n'était pas 4000. 3500 personnes.
Faut toujours corriger les journalistes.
De toute l'Europe. Et ça a été absolument magnifique. 3 jours, on a eu une catéchèse avec le Saint-Père qui a été magnifique. Peut-être on pourra évoquer quelques points.
Je vais juste citer, donc sur votre site internet, il y a quelques citations pour Fioretti. Évidemment, il n'y a pas de nom, mais on voit en fait à quel point ça a touché, même s'il n'y a pas 3000 témoignages. J'en cite une ou deux. Ce qui m'a touché, ce sont les paroles fortes du pape, misère, paix, j'ai perdu la foi, je l'ai retrouvée. Voilà, c'est court, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Donner et pardonner, c'est un rêve. Nous sommes venus avec des étoiles dans les yeux et un feu dans le cœur avec ces 3 jours à Rome, un accueil du pape qui a demandé pardon aux sans-abri pour tous les chrétiens qui détournent la tête, les pauvres qui ont prié pour le Saint-Père en posant leurs mains sur sa tête. Alors c'est l'image qui a été retenue par les médias. Peut-être c'est entre guillemets ce qui symbolise le plus cette rencontre. Est-ce que vous pouvez parler de ce moment peut-être avant qu'on parle
bien
du
sûr,
reste?
Bien sûr, ça a été extrêmement puissant. Ce qui s'est passé, c'est que on a parlé au Saint-Père. Enfin, on lui a demandé. Il y a eu plusieurs témoignages et puis ensuite on lui a proposé de prier pour lui et on a demandé à 12-13 personnes de la rue de poser leurs mains sur l'épaule du pape et on a commencé à prier pour lui et avec nous c'était toute l'église des pauvres et toute l'église universelle qui a prié pour le pape. Le pape voudrait une église pauvre pour les pauvres, c'était l'église pauvre qui priait pour le pape des pauvres et c'était absolument magnifique. Et puis je raconte parce que quand même pour vous raconter un peu le contexte, j'ai hésité à venir parce que ma petite maman était très malade et je savais qu'elle était en fin de vie et je me suis dit peut-être elle va mourir, Fratello ça se fera une autre année, on recommencera peut-être une autre fois, par contre perdre sa maman c'est qu'une seule fois. Et j'ai senti que de la part de ma maman c'était important que j'y aille, alors je suis parti sans lui dire au revoir parce que je voulais pas lui dire au revoir parce que je voulais la retrouver. Et je suis parti et quand on a vu le pape à ce moment-là, au moment de cette prière des frères, je lui ai dit très Saint-Père, j'ai ma petite maman qui est en train de mourir et je vous la confie. Et puis Voilà, on a, au cours de cette audience, j'ai demandé aussi au Saint-Père de lancer les Journées mondiales des pauvres. Et puis, voilà, le lendemain soir, on est allé à Sainte-Marthe dîner dans la salle à manger du pape, notamment avec...
Sainte-Marthe, c'est là où habite le pape, donc. Hein,
voilà, notamment avec une personne pauvre qui avait fait une tentative de suicide quelques jours auparavant et qui a été bouleversée par cette rencontre. Et puis, le lendemain, on avait une messe, la messe finale avec le Saint-Père.
La messe de clôture du jubilé,
exactement. C'est la messe de clôture et en même temps pour Fratello. Et quelques instants avant, avant le début de la messe, on se dit « Oh, on voudrait faire bénir des médailles par le Saint-Père. » Alors, on va voir le maître cérémoniaire du pape et il nous dit bah, « Une personne vient et je vais lui présenter le pape pour qu'elle puisse bénir les médailles. » Alors, j'ai dit à un de mes collaborateurs « Vas-y, parce que j'ai déjà vu le pape, j'ai déjà parlé avec lui. » Et puis, à la dernière minute, je dis « Attends, je viens avec toi. » Et on est allé à deux, Loïc et moi, on est allé se rapprocher pour voir le pape. Et à ce moment-là, dans l'embrasure d'une porte, alors que Saint-Pierre, vous connaissez, c'est quand même absolument gigantesque, je vois ma femme que je n'ai pas vue depuis le début de la matinée et la femme de Loïc. Et elles viennent avec nous. C'est nos femmes qui nous ont épousés et qui nous suivent aussi et qui vivent avec nous cette mission. Et donc elles viennent et on s'est mis à genoux devant le pape. Et le Saint-Père nous a bénis. Il a béni toutes les familles de Lazare. Il a béni toute cette œuvre. Il m'a dit « Étienne, j'ai relu votre discours. C'était magnifique. Il faut continuer, etc. » Et puis on lui a dit « Saint-Père, est-ce que vous voulez bien qu'on fasse les Journées mondiales des pauvres ?» Il a dit « Oui. » Et moi, j'étais pas sûr qu'il avait bien compris, donc je lui ai répété, il a dit oui, et il a éclaté de rire, et ça a été absolument magnifique. Et donc là, on est en train de travailler pour organiser les Journées mondiales des pauvres pour dans les années à venir.
Alors qu'est-ce que c'est juste les Journées mondiales des pauvres ? C'est après les Journées mondiales de la jeunesse, il y aura les Journées mondiales des pauvres, c'est ça ?
C'est en quelque sorte un peu l'idée. Alors il y aura peut-être, là on est en train de travailler avec le Vatican, mais peut-être l'idée serait quelque chose dans les paroisses, dans les diocèses l'année suivante, et puis ensuite au niveau international la dernière année. Mais surtout, la Journée mondiale des pauvres, c'est la journée de chacun d'entre nous, c'est d'ouvrir notre cœur aux pauvres. Et en fait, c'est tous les jours la Journée mondiale des pauvres. C'est-à-dire que Mère Teresa dit « Cherchez les pauvres, trouvez-les, aimez-les ». Autour de nous, il y a des gens qui souffrent. Il y a 4 millions de Français qui n'ont pas de discussion suivie dans l'année. C'est-à-dire 4 millions de Français qui sont dans un isolement absolument terrible. Est-ce que notre voisin, on l'a rencontré récemment, qu'est-ce qu'on fait pour notre voisin ? Qu'est-ce qu'on fait pour la personne qui est dans la rue ? Qu'est-ce qu'on fait pour la personne qui est dans ma promo, qui déprime ? Ou est-ce que j'ai repéré qu'il y avait une personne à côté de moi qui faisait une dépression ? Eh bien, en fait, le Seigneur nous invite à nous convertir pour chercher les pauvres, les trouver et les aimer. Et comme on est des pauvres types et qu'on ne sait pas aimer, eh bien, on demande à l'Esprit-Saint, au travers de l'adoration, au travers de la prière, « Donne-moi un cœur de compassion pour que je puisse aimer les pauvres et pour que je puisse changer mon cœur, et en changeant mon cœur, la personne, je vais pouvoir l'aimer, elle va changer mon cœur aussi à son tour, et peu à peu, on va mettre le feu au monde.
Première édition des Journées mondiales des pauvres, c'est pas encore fixé.
C'est en cours, on est en pleine discussion avec le Vatican, mais bientôt, bientôt, j'espère.
Alors, juste pour finir cette émission, il nous reste encore 5 minutes, je voulais peut-être revenir, mais si vous avez d'autres choses à dire, surtout n'hésitez pas, sur quelques-uns des messages qu'il a fait passer donc aux personnes qui étaient présentes, puisque donc vous étiez dans la salle Paul VI, qui est la grande salle d'audience donc au Vatican, il y avait donc ces 3000 et quelques personnes, et le pape François donc a répondu après que vous ayez fait une introduction, ainsi que le cardinal Barbarin, donc qui vous a accompagné dans cette aventure, donc à parler en fait à cette assemblée. Alors il leur a dit pas mal de choses, mais je trouve que ça vaut le coup de revenir dessus. La première chose peut-être qui m'a frappé, peut-être vous aussi, il leur a dit ne vous arrêtez pas de rêver. Il leur a parlé de la passion et du rêve. Et je sais que ça en a touché certains. Est-ce que vous commenceriez par cela, et qu'est-ce que vous en diriez ?
En fait, je pense que beaucoup de personnes ne rêvent plus. Elles sont omnubilées par où est-ce que je vais manger ? Où est-ce que je vais dormir ?
Et dans une espèce des personnes qui sont à la rue ?
Les personnes qui sont à la rue, dans une espèce d'angoisse permanente. Et peu à peu, en fait, le fait de rêver, c'est voir une petite étoile au loin dans le ciel et de se dire « je vais peut-être l'atteindre ». Et cette petite étoile va m'aider à tenir ces jours douloureux jusqu'au jour où, enfin, je pourrai manger la manne qui se trouve dans le désert. Et donc, aidons ces personnes à rêver. Et déjà aussi, moi, ce que je veux dire à nos éditeurs, rapprochons-nous des pauvres, essayons de les apprivoiser et peu à peu leur proposer de les rencontrer. Et peu à peu, peut-être qu'on va les aider à rêver aussi pour lever le nez du trottoir et se remettre debout.
Alors, le pape leur a aussi parlé de la dignité. À un moment, il a eu cette phrase « pauvre, oui, esclave, non ». Je ne sais pas si ça vous a marqué particulièrement ou si vous ont fait des retours là-dessus.
Non, mais bien sûr, ça a marqué profondément toutes les personnes. Mais c'est aussi lié à la pauvreté internationale. Dans beaucoup de pays, il y a une pauvreté qui est dramatique, où les enfants travaillent, où il y a des conditions absolument dramatiques. Même des gens qui sont à la rue, Pour certains ont été exploités, j'en ai rencontré quelques-uns. C'est pas la majorité, mais certains ont été exploités.
Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont frappé dans les catéchèses parce que vous assistez à toutes les catéchèses, je crois que vous en avez eu trois. L'autre chose que je voulais souligner, c'est quand il leur a demandé d'être des artisans de paix. Est-ce qu'il y a d'autres... Vous voulez réagir là-dessus ou est-ce qu'il y a d'autres choses
qui
vous ont marqué?
Le pape nous a aussi demandé pardon aux pauvres à chaque fois que quelqu'un détourne son regard. Et ça, c'est absolument magnifique. Trop souvent, vous voyez, il y a une femme qui a écrit un livre qui s'appelle « Je vous salis ma rue ». Et dans son livre, elle parle de l'asphaltisation des personnes de la rue. C'est-à-dire que peu à peu, les personnes de la rue prennent la couleur du asphalte, du bitume, pour plus avoir le droit d'exister. Elles-mêmes, elles ne veulent pas exister parce qu'elles ne se donnent pas le droit d'exister. Et vous savez, il y a quelques années, il y a eu les tentes qui ont apparu un peu partout en France. Ça a été un gros scandale parce qu'on a ouvert les yeux et on s'est rendu compte qu'en France, avec les enfants de Don Quichotte, on s'est rendu compte que énormément de gens étaient à la rue. Aujourd'hui, je voudrais passer un appel. Je voudrais que, après cette émission, qu'on reparte pas comme on est venu. Je voudrais que on change profondément et que on cherche autour de nous une action qu'on peut faire auprès d'un pauvre, auprès de quelqu'un qui souffre autour de nous. Chacun de nous peut faire quelque chose, et même aussi petit soit-il. Je voudrais aussi vous dire que aujourd'hui, on veut développer, agrandir. On voudrait agrandir notre maison de Toulouse. On voudrait agrandir d'autres maisons, construire, etc. Une maison aujourd'hui, ça coûte 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. Aujourd'hui, on a trouvé un partenaire qui, quand on trouve 1 million, donne un autre million d'euros. On a besoin de votre aide. On a besoin de votre ISF, pour ceux qui payent l'ISF. On a besoin de la dame qui va donner 5 euros, la personne qui va donner 500 euros, la personne qui va donner 10 000, 100 000. Il n'y a pas de petits ou de grands dons. Il y a des dons. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce que je découvre, c'est que le don est la source de la joie. Et aussi, même chose pour ceux qui se donnent en venant vivre dans nos maisons. On a besoin de vous. En donnant une année de votre vie, vous allez recevoir une vie magnifique. Voilà.
Pour finir, je citerai juste, et puis après je donnerai les coordonnées de votre association, je citerai juste donc cette parole du pape François. Vous avez dit qu'il avait demandé pardon. Il a dit entre autres, donc je vous demande pardon au nom des chrétiens qui ne lisent pas les évangiles en y trouvant la pauvreté au centre. Je vous demande pardon pour toutes les fois où nous chrétiens, devant une personne pauvre, une situation de pauvreté, nous regardons de l'autre côté, pardon. Voilà, Étienne Villemin, donc on donne deux adresses e-mail, www.lazare.eu, ça c'est pour découvrir l'association et pour les jeunes qui voudraient donner du temps, et après ils se dirigent vers les différentes maisons qui sont indiquées un peu partout en France, www.lazare.eu, et pour les gros sous et les dons ISF, fondationlazare.org, www.fondationlazare.org. Merci beaucoup.
Merci du fond du cœur, merci.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.